Ici Vichy, la voix de la France.
Sur Radio Vichy, en 1943, la milice vous parle.
Miliciens, sympathisants, vous tous qui nous écoutez, la milice française lance aujourd'hui une nouvelle émission.
La lutte à mort entre les miliciens et la résistance passe aussi par les ondes.
Chaque semaine, le lundi à 21h40, vous pourrez l'entendre sur les ondes de la radiodiffusion nationale.
Avec la milice de Joseph Darnan, créée en janvier 1943, les résistants sont désormais traqués par des nervis à la solde des nazis.
Moi, je n'aime pas les cambrioleurs et les pillards. Et il y avait dans mon pays une bande de cambrioleurs et de pillards, c'était l'armée nazie. Et puis j'aime encore moins les gens qui aident les cambrioleurs et les pillards, et c'était le gouvernement de Vichy.
Nous voilà arrivés en janvier 1943, et une quatrième année de guerre commence. En France, la dictature de Vichy se radicalise. En Russie, l'armée allemande vacille devant Stalingrad. Et en Italie, on craint un débarquement allié depuis l'Afrique du Nord que les Américains et les Anglais ont libéré. Face à la crainte d'une défaite, les nazis et leurs alliés redoublent de férocité au point que nos cinq résistantes doivent affronter de nouveaux périls. À Lyon, Lucie Aubrac et son époux juif doivent apprendre à vivre avec la Gestapo, dorénavant installée en zone sud avec la Wehrmacht. À Paris, le patronyme devenu célèbre de Geneviève de Gaulle,
honneur et patrie,
équivaut à un arrêt de mort. Et à Nice, Mila Racine redoute la chasse aux juifs.
Bon alors, combien on a de juifs ici?
Quant à Simone Mathieu et René Davelli, françaises libres expatriées, l'une à Londres, l'autre au Caire, elles subissent les effets de la guerre totale. Alors, comment nos cinq femmes ont-elles appréhendé cette escalade de la violence? C'est la trame de ce nouvel épisode.
Ce que la Française supporte moins que tout autre, c'est l'ennemi chez elle. C'est de voir chez elle celui qu'elle n'y a pas invité. On ne s'impose pas chez une femme française.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Les Résistantes. Sixième épisode, dans la gueule du loup.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Voyons, madame, vous, qu'est-ce que vous faisiez?
Moi, je distribuais des tracts et je fabriquais des fausses cartes d'identité.
J'ai fait des transmissions de consignes pour parachutage, des organisations maquis.
Vous avez posé vous-même les bains de plastique.
Avec des détonateurs que j'avais fabriqués moi-même parce qu'on en manquait.
Quelle était la raison qui vous animait?
C'était pour sauver son pays.
Le récit commence sur les ondes de la radio vichyste. En 1943, l'entourage de Philippe Pétain a bien compris que cette guerre est aussi une guerre de propagande. Et pour gagner la bataille culturelle contre les gaullistes,
miliciens, miliciennes,
la radio s'avère précieuse.
Jeudi dernier, vous avez entendu Joseph Darnan, votre chef. Il vous a assuré de toute son affection, de sa foi en notre mission politique et dans le destin de la patrie. Il vous a rappelé les raisons de notre combat, la permanence de notre doctrine, le pieux souvenir de nos morts.
Joseph Darnan, glorieux soldat de la Grande Guerre, fasciné par Pétain, son idole,
à genoux,
s'est vu confier la direction de la milice.
Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain.
D'abord, quelle était la raison d'être de cette organisation fondée par Pierre Laval le 30 janvier 1943.
Il s'agit tout d'abord pour Pierre Laval de répondre à une demande allemande.
Julie Legac est historienne.
C'est-à-dire que lorsqu'il s'est rendu en Prusse orientale, qu'il a rencontré Hitler, Hitler lui a fait part de son émotion vis-à-vis des désordres suscités par les attentats qui se multiplient, les attentats de la résistance, à l'encontre des forces d'occupation allemandes. Et Laval, donc, accède à la demande allemande et va favoriser la création, donc, de cette milice qui est à la fois un instrument politique, c'est-à-dire qu'il va essayer de régénérer le pays sur un modèle fasciste, en fait. Donc, c'est un instrument de redressement moral et intellectuel du pays. C'est comme ça que se veut cette milice. Mais c'est aussi une force supplétive de police qui collabore avec les Allemands et qui collabore dans les actions répressives des Allemands, donc à l'encontre de la population française.
La milice française est donc un pas supplémentaire dans la politique de collaboration, avec une mission très simple.
Petit, tu sais toi où sont les maquiseurs ?
Je sais pas.
Pour chasser tous les résistants.
Il sait pas, tu sais pas.
Dans ce climat de traque, exacerbé par la création de la milice, une partie de la police française n'est pas en reste dans la lutte contre les résistants. Et à Lyon, les époux Aubrac, Lucie et Raymond, en font très vite les frais.
Police, des papiers.
Raymond Samuel se fait arrêter le 15 mars 1943 avec d'autres responsables de l'armée secrète.
L'historien Laurent Douzou.
Il est arrêté, il faut le préciser, par la police française. Il a une fausse identité qui tient assez bien la route. Il est donc déféré à la justice française. Et c'est dans ces circonstances que Lucie Aubrac, c'est ce qu'elle a raconté, il n'y a pas de manière de vérifier de façon certaine, mais serait allée voir le procureur qui gérait le dossier de son mari.
Madame.
Et lui aurait dit, c'est un envoyé de Londres, et si vous ne le libérez pas avant le 10 mai 1943, eh bien, vous entendrez un message qui passe à la BBC, je vous le donne.
Parmi les messages personnels, vous entendrez celui-ci. Continuez de gravir les pentes. Il vous est destiné.
Et ça voudra dire que votre vie est en danger à partir de ce moment-là. Et le fait est que Raymond Aubrac est bien remis en liberté provisoire. Alors on a une hésitation sur les dates, mais entre le 10 et le 12 mai 1943.
Après ce coup d'audace inouï, Lucie Aubrac décide d'emmener son mari et leur jeune fils Jean-Pierre à Carqueiranne, dans une pension sur la Côte d'Azur.
Ah, ben voir des Français, ça fait plaisir, hein, ça change. Que ici, j'ai que des soldats italiens dans l'hôtel. Je vais lui soigner comme des coqs en pâte.
Leur séjour à Carqueiranne, après la mise en liberté provisoire de Raymond Samuel, c'est une parenthèse, si vous voulez. Il faut comprendre ça comme un havre de paix. On comprend pas bien la résistance et l'action de ces gens si on ne prend pas en compte l'extrême tension dans laquelle ces gens la vivent quotidiennement, 24 heures sur 24. Donc j'allais dire Carqueiranne, ce séjour à Carqueiranne, c'est l'équivalent, je sais pas, d'une permission pour un soldat des forces spéciales. C'est un moment où on peut souffler, essayer de retrouver son équilibre, parce qu'enfin, être arrêté, être incarcéré...
Jambes écartées, baissez-vous, toussez, plus fort.
Être transféré 24 heures aux Allemands qui vous interrogent.
Was haben Sie in dieser Wohnung gemacht?
Tout ça, ça crée des tensions extrêmes. Et donc, je pense que ce séjour, on peut le comprendre assez bien comme une manière de retrouver un équilibre. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'ils ont un enfant qui a 2 ans. Et c'est au fond leur premier vrai moment de paix depuis la naissance de cet enfant en mai 41.
Après ce séjour en Méditerranée, les époux Aubrac regagnent Lyon le 7 juin 1943, 2 jours avant l'arrestation à Paris du général Delestrin, le chef de l'armée secrète à laquelle appartient Raymond Aubrac. Un vrai coup dur pour la résistance intérieure. Et Jean Moulin, président du CNR, le Conseil national de la résistance, organise en urgence une réunion à Caluire et Cuire, près de Lyon, où est convoqué, entre autres, le mari de Lucie Aubrac.
Raymond a été arrêté avec Jean Moulin à Caluire, au moment où Jean Moulin avait convoqué ce qui restait de l'état-major du général Delestrin, après l'arrestation de Delestrin, pour recréer un état-major et renommer un chef provisoire de l'armée secrète en attendant que Londres et tous les mouvements de résistance soient d'accord.
Ce jour-là, la Gestapo fait une descente au lieu de la réunion, donc la maison du docteur Dugoujon à Caluire.
Bénédicte Vergès-Chaignon est historienne.
Et arrête tous les hommes présents, ceux qu'elle identifie comme résistants et les autres. Et emmène tout le monde au fort de Montluc. Puis à l'école de santé militaire qui est le siège de la Gestapo à Lyon pour les interroger.
Alors, monsieur Hamler, racontez-moi. Qu'est-ce que vous faisiez chez le docteur Dugoujon ? Vous êtes malade ?
En fait, la Gestapo est depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, très spécifiquement sur les traces de l'armée secrète. Elle sait qu'il existe un représentant du général de Gaulle. Simplement, elle ne connaît pas son identité, elle ne l'a pas identifiée et elle va chercher non seulement à démanteler l'armée secrète, mais bien entendu à identifier celui qu'elle connaît sous le pseudonyme de Max.
Qui est Max ? Qui est Max ? Qui est Max ?
Le lundi 21 juin 1943, Raymond Aubrac est donc à nouveau arrêté, cette fois par la Gestapo. Comment réagit Lucie Aubrac ?
Alors d'après ce qu'on sait, c'est-à-dire les témoignages qu'elle a laissés, les témoignages de certains de ses camarades qui ont été recueillis après-guerre, sa première réaction c'est d'être anéantie. Parce que c'est une arrestation par Klaus Barbie, c'est-à-dire par ce qu'on appelle la Gestapo, parce que son mari a des responsabilités éminentes, parce que l'arrestation, c'est pas seulement celle de son mari, c'est celle de Max, c'est-à-dire de Jean Moulin, qui est quand même rien moins que le délégué général de la France libre en France, qui est le président du Conseil national de la Résistance, donc une prise capitale. Raymond Samuel arrêté avec lui, et puis d'autres cadres de l'armée secrète et pas des moindres. Donc c'est un coup de filet magistral qui est réalisé par Klaus Barbie. Et elle est anéantie parce que elle a beau être très combative, elle se demande dans un premier temps comment on peut essayer de contrebattre ce coup dur. Et elle va, avec une obstination, une opiniâtreté absolument incroyable, tenter d'abord de faire évader l'ensemble des gens sur lesquels on a des renseignements, dont Jean Moulin. Puis, à partir du moment où on sait que l'étau se resserre et qu'il n'y a plus que Raymond Samuel qu'elle peut sauver, ben elle va monter toute une opération en demandant des fonds au Mouvement Uni de Résistance et puis en s'appuyant sur des groupes francs. Et elle va monter tout un stratagème pour réussir à faire évader son mari.
Alors, comme j'avais déjà monté des évasions de prison, d'hôpitaux, de choses comme ça, on a dit, ben Lucie, tu vas essayer de savoir ce qu'ils sont devenus.
Lucie Aubrac, 1992.
J'ai dit, qu'est-ce que je risque ? Je vais aller trouver le chef de la Gestapo. Alors, je m'étais très bien habillée. Normalement, j'étais plutôt une fille sportive, les cheveux un peu raides. Là, ce jour-là, j'avais été me faire faire une belle frisure. J'avais un chapeau, une voilette. J'avais un très joli tailleur que m'avait prêté une fille splendide qui était l'adjointe de Pierre Desfaux-Papiers. Et je suis partie trouver Barbie.
Ouais.
Je suis arrivée à la Gestapo. J'ai demandé à voir le chef de l'opération de Caluire. Ça n'a pas fait un pli. On m'a monté tout de suite dans son bureau.
Je suis l'Obersturmführer Barbie. Qui voulez-vous ?
J'ai d'ailleurs été surprise de retrouver cette espèce de petit bonhomme que j'imaginais pas. Imaginez que le chef suprême de la Gestapo pour toute cette région était un petit bonhomme de mon âge, plus petit que moi, un peu blondassin, sans grande allure, alors qu'un commissaire de police, un préfet, c'était des personnages de 50 ans, de l'âge presque de mes parents, vous voyez. Alors je lui ai dit que je venais parce que j'étais fiancée à un individu qui se trouvait un des malades du docteur et qu'il fallait que je le récupère tout de suite parce qu'il allait pas bien. Il a ricané et puis il m'a sorti tous les papiers de Raymond en me disant « c'est un terroriste, vous le reverrez pas ».
Lucie Aubrac ne renonce pas pour autant à faire libérer son mari. Mais cette opération d'évasion va nécessiter de longues semaines de préparation et nous y reviendrons un peu plus tard. Pour l'heure, que devient Jean Moulin, lui aussi arrêté et incarcéré avec Raymond Aubrac?
Il va être désigné par un de ses compagnons qui a été soumis à la torture et surtout à plusieurs simulacres d'exécution et qui a fini par désigner celui qui, parmi les hommes arrêtés, était Max. Dès qu'il est identifié, il est interrogé. Il est interrogé très brutalement. Son état physique devient rapidement extrêmement dégradé, sans que l'on sache si c'est à cause des tortures qu'il a subies ou de tentatives de suicide qu'il aurait faites, peut-être la combinaison des deux. Bref, il est à la limite du coma très rapidement après avoir été identifié.
La mort exacte de Jean Moulin demeure nébuleuse.
Le document d'état civil établissant sa mort à la gare de Metz le 7 juillet 1943 a été fait par une administration SS, puisque Metz avait été annexé par le Reich. Ce document est très postérieur aux événements et porte comme cause de décès arrêt cardiaque, ce qui est tout à fait typique de ce que les SS utilisaient dans les camps dont ils avaient l'administration. Donc, on en est quand même réduit aux conjectures, mais selon toute apparence, Jean Moulin est mort pendant un transfert au début de l'été 1943.
Ainsi, au début de l'été 1943, Jean Moulin disparaît dans la nuit du XXe siècle.
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
Dans cette France du printemps 1943, outre la milice qui pourchasse les résistants, Pierre Laval, le chef du gouvernement, a aussi mis en place une autre mesure phare pour satisfaire les ambitions d'Hitler.
Ne quittez pas l'écoute, vous allez entendre une déclaration du président Pierre Laval, chef du gouvernement.
Ouvriers français, quand je vous ai demandé il y a quelques mois d'aller travailler en Allemagne...
À la demande des Allemands, un ministre de Pétain, Pierre Laval, décide de mettre à leur service dans les usines de guerre en Allemagne, les jeunes Français de 21 à 23 ans, pour remplacer les Allemands qui partent se battre sur le front russe. Cela s'appelle le service du travail obligatoire, STO.
Dans sa dernière déclaration, le président Laval a dit...
Le président Laval, il a qu'à y aller lui-même, et puis qu'il emmène le maréchal. Tiens, ça en fera toujours deux.
Beaucoup de jeunes refusent de partir, cherchent un refuge... Et une partie d'entre eux va se cacher dans les montagnes.
Ah, vite !
Bonne affaire pour la résistance, qui s'efforce de les organiser, de les armer, et commence à créer une vraie armée secrète. C'est le début des maquis.
Dès le départ, la population est hostile au STO.
Julie Le Gac.
Mais finalement, il y a une hostilité qui ne se traduit pas. C'est-à-dire que les jeunes ne sont pas contents de partir, mais partent. Et finalement, c'est vraiment à partir de l'été 1943 qu'il y a de plus en plus de refus et de réfractaires. Et donc, il y a entre 30 et 45 000 jeunes hommes qui vont refuser, donc être réfractaires du STO, et qui vont rejoindre les maquis. Et donc, 30 à 45 000 hommes, c'est effectivement peu nombreux, mais ils forment l'armature de ces premiers maquis. Ils vont jouer un rôle très important. Ce sont des groupes qui se structurent comme une formation militaire. Alors avec les moyens du bord, bien sûr, mais avec l'idée de combattre par les armes l'occupant allemand.
La main gauche, ici. Bien ça.
Radio Londres, 1943.
ne va pas en Allemagne, ne va pas en Allemagne, ne va pas en Allemagne, ne va pas en Allemagne.
J'y vais pas. Mais c'est obligatoire.
T'es pas obligé d'obéir.
Mais si on part pas, on va où?
Justement, ça fait un moment que j'y pense. Et là, c'est l'occasion. Je vais rejoindre le maquis.
Donc, à partir de l'été 1943, les jeunes Français qui refusent d'aller travailler en Allemagne viennent nourrir les effectifs des maquis.
Vous allez quitter vos vies tranquilles pour vivre au maquis. Ici, on pue. Ici, on a faim. On a froid. Et on se réveille épuisé. Et j'avais oublié un détail important. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de femme ici. Ben, croyez-moi, parfois, c'est aussi dur que de pas manger.
Et sachez qu'avec l'apparition des maquis un peu partout en France, se dessine une nouvelle spécificité féminine de l'engagement en résistance. Autrement dit, un nouveau rôle.
Alors, un rôle particulier, les maquis, c'est un monde éminemment masculin.
L'historienne Catherine Lacour-Astol.
Le STO vise les hommes, donc ceux qui sont réfractaires au STO sont forcément des hommes, plutôt jeunes. Et dans un premier temps, ces regroupements ne sont pas tout de suite combattants, mais entre le moment où le maquis est un refuge, refuge d'hommes, et où il se mue en monde potentiellement de combat, il reste toujours éminemment masculin et de plus en plus viril. Donc de prime abord, si je disais les choses de manière un peu brutale, les femmes n'ont pas grand-chose à faire au maquis. Sauf que, il y a cette nécessité évidemment absolue que le maquis ne puisse pas être repéré. Donc il faut minimiser au maximum les déplacements qui viseraient à aller chercher du ravitaillement ou à aller trouver un autre groupe qui s'est réinstallé à un autre endroit, etc. Et donc là, d'un point de vue fonctionnel, les femmes sont utiles. Les femmes sont utiles parce que elles ne doivent rien dire de ce qu'elles savent des allées et venues, parce que elles vont participer très largement au ravitaillement du maquis, parce que elles vont participer aussi à la liaison entre les chefs de maquis et les bases arrières. Donc là, les femmes deviennent indispensables. Et plus on va rentrer dans un caractère opérationnel des maquis et dans le combat, plus leur rôle va encore s'accentuer, mais encore une fois, dans ce qu'il a de plus traditionnel, puisque les femmes vont aussi être celles qui vont soigner soit sur le maquis lui-même lorsqu'on arrive à créer un hôpital entre guillemets de campagne dans le maquis, soit en soignant ailleurs les maquisards. Donc oui, les femmes sont absolument indispensables dans un monde qui est éminemment un monde d'hommes, en jouant un rôle fondamental précisément sur des fonctions qui sont absolument traditionnelles pour elles. Et c'est précisément cette dimension-là qui permet de revisiter la façon dont on considère la résistance. À ne pas dissocier le militaire de toutes les autres dimensions. Le militaire n'est possible que parce qu'on a cette matrice de solidarité qui se tisse et qui permet l'existence du maquis.
Je n'ai pas grand-chose, mais prenez, ça calmera votre fièvre. Doucement, doucement.
Certaines qui ont aidé les différents maquis étaient considérées comme les mères, les grands-mères, les sœurs du maquis, donc comme des figures tutélaires et d'une certaine manière désexualisées. Et les textes des chefs de maquis sont extrêmement élogieux à l'égard de ce rôle qui a pu être le fait de toutes celles qui sont impliquées aux côtés des maquisards.
Vous allez rester ici quelques jours. Soyez sans crainte, on va s'occuper de vous.
Pendant que certaines femmes, dans les campagnes de France, ravitaillent et soignent les maquisards, Geneviève de Gaulle, elle, vit toujours à Paris. Et en ce printemps 1943, l'étudiante en histoire s'est rapprochée d'un mouvement de résistance, défense de la France.
Chic les gars, là une fille.
Ah, on n'avait dit pas de fille. Est-ce qu'on est venu ici pour s'amuser avec des gonzesses ou faire du boulot ?
Défense de la France, c'est un mouvement qui est né donc en zone nord, la zone occupée par les Allemands en août 1941.
Frédéric Naud-Dufour, historienne.
l'originalité profonde de ce mouvement, c'est qu'il est créé par des très jeunes gens, des étudiants et des étudiantes parisiennes et parisiens, notamment de la Sorbonne, et qui vont, à l'aide d'un journal qui porte le même nom, Défense de la France, essayer de diffuser vraiment une vision très consciente et très morale de ce que peut être la résistance et ses valeurs.
Le mot de passe.
La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Ben, vous n'êtes pas foulé pour trouver ça.
Oh, allez, entre.
Ce mouvement va évoluer hein, tout au long de son histoire, comme beaucoup d'autres mouvements. D'abord, donc, c'est essentiellement un journal, une diffusion d'idées pour susciter la résistance chez les gens, et qui va évoluer, notamment grâce à l'influence de Geneviève de Gaulle, vers une action un peu plus engagée sur le terrain, avec le soutien aux réfractaires du STO, et peu à peu, un ralliement à De Gaulle, un ralliement tardif, mais un ralliement réel à De Gaulle, qui va être facilité, en effet, par la nièce du général De Gaulle.
Défense de la France, c'est un mouvement de résistance, c'est aussi un journal.
C'est peut-être même d'abord un journal.
Geneviève de Gaulle, 1995.
Pourquoi éprouvez-vous le besoin, Geneviève de Gaulle, d'aller distribuer ce journal dans la rue ?
Parce qu'on voulait que les Français n'aient plus la trouille. C'était l'idée, c'était Français, libérez-vous de la crainte. Alors, si on commence à distribuer un journal ouvertement, les gens doivent se dire, ah ben les Allemands ne sont pas si forts que ça quand même. C'était important, parce qu'il fallait que la France, quand même, bascule du bon côté, complètement. Hein.
Alors justement, quel rôle elle joue dans ce mouvement de résistance, Frédéric Nodufour, Geneviève de Gaulle ?
Alors Geneviève de Gaulle, elle a, il faut le dire, un rôle très original pour une femme dans un mouvement de résistance. Elle va réussir quand même assez rapidement à occuper une place importante dans le mouvement. Elle va y entrer grâce à Jacqueline Pardon, qui est membre du comité directeur de ce mouvement de résistance, qui la présente à Philippe Vianney, le fondateur, en janvier 1943, et celui-ci va la faire entrer au comité directeur. Et elle va avoir pour mission, tout d'abord une mission qu'on retrouve souvent chez les femmes en résistance, hein, qui est de distribuer le journal par la poste, de choisir des personnalités à qui envoyer le journal, etc. C'est à cette époque-là, véritablement, hein, au début 1943, que Geneviève de Gaulle entre en clandestinité, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus se permettre de rester sous le nom de De Gaulle, qui en plus est un petit peu très très visible. Et donc elle va avoir plusieurs pseudonymes successifs, des faux papiers. Et là où elle joue vraiment un rôle extrêmement original, c'est que dans ce mouvement Défense de la France, elle est un véritable ambassadeur du général De Gaulle. Au sein d'un mouvement qui, on va le dire gentiment, n'était pas du tout pro-De Gaulle ou sensibilisé à l'œuvre du général. Alors d'abord, elle va faire lire les livres écrits par le général de Gaulle avant la Seconde Guerre à ses étudiants. Et puis, la deuxième chose qu'il faut vraiment souligner, c'est qu'elle va être la seule femme à signer un article dans un journal clandestin. Et cet article, qu'elle signe avec un pseudonyme qui en plus est magnifique et puis très transparent, c'est Gallia, c'est un article consacré à son oncle Charles de Gaulle, le 5 juin 43. Donc elle va présenter qui est de Gaulle en quelques mots pour que les gens le connaissent, tout simplement. Et elle termine par la phrase suivante. Charles de Gaulle quitte la France, mais c'est pour la ramener au combat et à la victoire. Et grâce à cette espèce de force de conviction gaullienne de Geneviève, Défense de la France va se rallier, à partir de ce moment-là, à la France libre et recevoir également une aide financière de cette France libre.
En juin 1943, la France libre du général de Gaulle installe ses quartiers en Algérie, territoire libéré par les Alliés, à l'automne 1942. Et à Alger, le 3 juin, se crée ce qu'on appelle le CFLN, le Comité français de libération nationale. De quoi s'agit-il ?
C'est un organisme qui va permettre de fusionner en fait deux forces militaires distinctes. La France libre et les Français libres de Londres, avec à leur tête le général de Gaulle, et l'état-major civil et militaire d'Alger, qui est commandée par le général Giraud, soutenue notamment par les Américains. Il y a des négociations qui vont s'engager entre ces deux forces. Et cette création du CFLN va permettre donc de fusionner politiquement ces deux entités et fusionner aussi militairement ces deux entités. Parce qu'à ce moment-là, en 43, alors que tout reste à faire, notamment pour la libération du territoire national, la priorité reste d'assurer efficacement cette libération et donc de préparer cette libération, une libération où doivent combattre des Français.
Est-ce qu'on trouve des femmes, Julie Legac, dans ce comité issu de la résistance ?
Eh bien, absolument pas. Que ce soit la première formation ou tous les remaniements qui auront lieu pour essayer d'associer notamment plus de la résistance de l'intérieur, il n'y a aucune femme qui rejoindra ce CFLN.
Donc, le CFLN réunit le général de Gaulle et le général Giraud dans un même comité de libération à Alger. Et c'est là-bas, à Alger, que nous retrouvons la trace de Simone Mathieu, notre troisième personnage. Elle a embarqué à Liverpool et elle arrive au Maghreb en juillet 1943.
Dans les archives, on retrouve une archive de la presse d'Alger,
l'historien Éric Allary.
Où elle est invitée pour un gala en 1943, où il y a le grand tennisman qui s'appelle Davis, qui donnera son nom à la célèbre Coupe Davis ensuite, où elle est signalée comme étant une grande star du tennis français par un journal de la résistance française. Et en fait, c'est la première fois qu'on utilise son pédigré tenniswoman dans la propagande et pour indiquer qu'elle est là, à Alger, et qu'elle aide la France combattante, pas le général de Gaulle, c'est très secret.
C'est secret parce que la capitaine Simone Mathieu a une activité bien particulière à Alger.
Alors, en 1943, Simone Mathieu trouve sa place auprès du général de Gaulle. Elle s'occupe du renseignement dans le secrétariat particulier du général de Gaulle. Ça consiste à lire des messages codés envoyés par les agents du BCRA, des services secrets de la France libre, de la France combattante, et aussi à leur envoyer des messages. Donc elle participe activement, pourrait-on dire, à l'organisation de la lutte armée en France, qui est déjà très avancée en 1943, depuis que des résistants français, communistes notamment, ont commencé à assassiner des officiers et des soldats allemands.
Brauchen Sie Hilfe, Fräulein?
Depuis l'Algérie, Simone Mathieu aide la résistance intérieure à combattre la milice et la Gestapo. Et sur ce même continent africain, bien plus à l'est d'Alger, au Proche-Orient, René Davelli, elle, fréquente une escadrille légendaire.
René Davelli, dans son rapport au ministère de l'Information, le 13 novembre 1944. J'effectuais tous les deux mois des tournées en Syrie et au Liban pour visiter les gars de Beyrouth, de Damas, d'Alep, ceux de la marine et des centres d'accueil de Sofar. J'ai été jusqu'en Iran, où j'ai donné, à Téhéran, une grande fête au profit des œuvres françaises et où j'ai chanté pour l'escadrille Normandie en route pour la Russie.
Portant le nom d'une province française, la Normandie, dont les armes représentent deux léopards sur fond de gueule, il fallut à l'escadrille 7 mois pour se constituer et gagner Téhéran, sa dernière escale avant de partir pour la Russie.
Et parmi les hommes de l'escadrille Normandie, 4 officiers ont offert une petite boîte à René Davelli, une boîte en bois qu'on a conservée et dans laquelle ils ont gravé leurs remerciements en 1943.
En fait, c'est à Téhéran que cette boîte lui a été offerte.
Olivier Loub est historien.
Elle lui a été offerte par des militaires de ce qu'on appelle donc l'escadre Normandie-Niemen. C'est un bataillon d'aviateurs qui est en route pour s'engager aux côtés des soviétiques sur le front de l'Est. Et c'est pour ça que ce groupe Normandie, il a une légende d'ailleurs assez remarquée, hein, des seuls soldats français qui ont combattu sur le front de l'Est du côté soviétique.
От имени советского командования я приветствую летчиков свободной Франции,
Au nom du commandement soviétique, je salue les pilotes de la France combattante.
Écoutez maintenant cet enregistrement. C'est l'unique archive sonore où nous entendons la voix parler de René Davelli.
Maya et du Maya, pour mon grand copain, le commandant Truffaut, un des plus grands héros de l'escadrille normande.
Elle dédie sa chanson Maya au commandant Truffaut, un document d'époque. Pendant que René Davelli chante pour l'escadrille Normandie à Téhéran durant l'été 1943, sachez qu'à Paris, un étudiant en médecine, Serge Marongin, traître à la solde de la Gestapo, a noyauté le mouvement Défense de la France, le mouvement de Geneviève de Gaulle.
Le 20 juillet 43, une souricière est tendue aux membres de Défense de la France à Paris, dans un endroit qui est leur boîte aux lettres, c'est-à-dire un endroit où ils laissent du courrier clandestinement pour d'autres résistants. C'est une librairie qui s'appelle Au vœu de Louis XIII, qui est située rue Bonaparte. Et Geneviève de Gaulle s'y rend ce jour-là avec des documents qu'elle doit y laisser. Et dès qu'elle entre, elle remarque que quelque chose cloche, qu'il y a des personnes bizarres qui sont là. Elle tente de cacher ses documents, de les lancer dans un coin, mais ça ne marche pas vraiment. Elle est interpellée.
Asseyez-vous, madame.
Non pas par un Allemand, mais par un Français, tout ce qu'il y a de plus français et tout ce qu'il y a de plus connu, puisqu'il s'agit de Bonny, ex-inspecteur de police, très lié à la cagoule dans les années 30, et qui, sous l'occupation, a rejoint un certain Lafon. Ils vont former ce qu'on a appelé la bande Bonny-Lafon, qui vont s'enrichir considérablement sous l'occupation en spoliant des familles juives, en arrêtant des résistants, tout ça pour le compte des SS. Ce Bonny l'arrête, elle a des faux papiers, il lui dit « Écoutez, ces papiers sont faux, qui êtes-vous vraiment ?» Et là, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'elle s'était toujours dit que si on perçait à jour que ses papiers étaient des faux, elle dirait immédiatement son vrai nom. Son argument était qu'elle voulait que les collaborateurs et les nazis sachent que toute la famille de Gaulle était dans la résistance. Et donc, devant ce Bonny qui l'a arrêté dans cette librairie, elle lui dit « Mon vrai nom, c'est Geneviève de Gaulle ». Et elle raconte elle-même, hein, par la suite, vieille dame, qu'elle voit passer une sorte de lueur d'inquiétude dans les yeux du fameux Bonny, qui doit quand même anticiper un petit peu que cette arrestation, en même temps très importante, pourrait, à l'avenir, si l'avenir tourne mal, lui coûter fort cher. Ce en quoi il ne s'est pas trompé.
Pierre Bonny, au nom de la loi, je vous arrête. Allez.
Pierre Bonny, arrêté par les résistants, le 31 août 1944, dans une ferme du Loiret. Ce gestapiste français a été condamné à mort, puis fusillé le 27 décembre 1944 à Arcueil, au fort de Montrouge. Mais pour l'heure, le 20 juillet 1943, c'est Geneviève de Gaulle qui est entre les mains de la Gestapo. Au moment même où Geneviève de Gaulle est interrogée rue Lauriston à Paris, la situation politique en Italie bascule. Nous sommes le 25 juillet 1943. L'archive est d'époque.
La radio de Rome a annoncé un peu avant 11h hier soir que le roi d'Italie a accepté la démission de Mussolini et qu'il a désigné pour lui succéder le maréchal Badoglio.
Plus qu'une démission, c'est la chute de Mussolini. Un coup de tonnerre dans le ciel des dictatures européennes. Les caciques du fascisme italien, inquiets de cette guerre qui tourne mal pour eux, ont sacrifié leur chef, avec l'espoir de sauver leur peau aux yeux des alliés. Et cette chute de Mussolini a une répercussion immédiate sur la vie de Mila Racine, notre cinquième personnage. Souvenez-vous, Mila Racine et sa sœur Sacha se sont réfugiées dans la zone d'occupation italienne en France, près de Saint-Gervais, où elles prennent soin des populations juives étrangères. Alors, quelle est la conséquence de la chute de Mussolini ?
Alors, la conséquence, c'est d'abord une grande angoisse chez les juifs de Saint-Gervais, de Megève, tous les juifs en centre de résidence forcée.
Zoé Grimbert est historienne.
Parce que tous s'interrogent. Que va-t-il se passer ? La zone d'occupation italienne ne sera plus italienne. Et donc, ce qu'on constate à ce moment-là, c'est qu'un groupe de juifs qui organise déjà des passages d'enfants à la frontière suisse, l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, accélère les passages d'enfants. À l'été 43, Simon Levitt, donc dirigeant du mouvement de la jeunesse sioniste, contacte Mila et lui demande si elle se sent capable de convoyer un certain nombre d'enfants de Saint-Gervais en Suisse. Mila accepte. Elle recrute une jeune fille à Saint-Gervais pour lui demander de la seconder dans cette tâche. Et elles empruntent un itinéraire qui est emprunté par l'OSE. L'OSE, en fait, a une filière de passage vers Annemasse, appuyée sur place par un réseau d'ecclésiastiques. Et ça, c'est très intéressant à noter. Le sauvetage des Juifs est du fait des organisations juives qui organisent, qui décident, qui convoient ces enfants. Mais localement, elles sont aidées par des filières d'ecclésiastiques dont un des buts est d'aider au sauvetage des enfants juifs.
J'ai mal aux pieds. J'ai soif. Moi aussi.
Comment ça se passe, ces filières d'évasion, Zoé Grimbert ? C'est pas une simple affaire. On a des jeunes enfants qui sont parfois fatigués ou faibles ou criards. Et on doit traverser quoi ? La montagne, la forêt, la nuit ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que fait Mila Racine concrètement dans cet été, automne 1943 ?
Effectivement, c'est pas évident comme tâche. Et on peut estimer que si Simon Levitt a demandé à Mila de le faire, c'est aussi en sachant quel était son lien avec les enfants et donc en étant rassuré sur sa capacité à calmer les enfants. Donc en fait, ce premier passage va être constitué de 11 enfants, plus Mila et la jeune fille qui la seconde. Et Mila va leur donner un certain nombre de conseils. Il faut être vêtu légèrement, comme si on allait faire une promenade, voilà, en mettant par contre deux couches de sous-vêtements. Pas de nourriture, à part du sucre dans les poches. Et on se met en route comme si on était un groupe qui part en randonnée. Ensuite, il y a des mesures de sécurité. Il ne faut pas appeler Mila par son prénom. Et elle leur explique avant de partir comment en fait ils vont traverser la frontière avec l'idée qu'on arriverait à Annemasse. Elle leur dirait où traverser. La Suisse accueille les enfants jusqu'à 16 ans, elle ne les renvoie pas. Évidemment, ça ne se passe pas exactement comme prévu. Alors on ne sait pas vraiment comment le groupe est arrivé à la frontière. Est-ce qu'ils ont pris le train ? Est-ce que des voitures les y ont emmenés ? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils y arrivent. Et en arrivant sur place, ils longent la frontière. Et au moment où ils arrivent devant l'endroit où les barbelés étaient censés être coupés, ils s'aperçoivent que des Allemands ont repéré
le passage.
Donc ils trouvent refuge dans une église dont le curé appartient à la filière qui aide l'OSE. Ils y passent la nuit. Les plus jeunes enfants sont logés chez des paroissiens. C'est comme ça que ça se déroulait dans le cadre de cette filière. Et le lendemain, Mila repère un peu les lieux et parvient à emmener les enfants. Elle leur donne le signal, donc elle se baisse pour refaire son lacet. Et les enfants traversent.
Allez, dépêchez-vous. Courez. Courez.
Et arrive en Suisse.
En septembre 1943, les Allemands investissent toute l'ancienne zone italienne, y compris autour de Nice. La traque des Juifs commence. Et dans les semaines qui suivent, les convois d'enfants s'accélèrent.
Une vingtaine, peut-être 25 convois du MJS. Et Mila et son équipe auraient sauvé comme ça 246 enfants.
Et pour gagner en efficacité, Mila Racine et sa sœur Sacha montent une équipe et installent leur base à Annecy.
Ça devait être septembre, c'était encore les vacances. Là, on avait déjà des passeurs à Annemasse qu'on payait.
Sacha Racine, 1997.
On nous amenait des enfants et nous, on les amenait à Annemasse.
Annemasse, un village français à la frontière suisse.
Alors on a commencé à tour de rôle, à passer Mila avec Tony.
Par ici.
Moi avec François.
C'était toujours un couple.
Oui, on passait toujours par couple.
Et l'objectif, désormais, une fois qu'ils ont évacué les enfants de Saint-Gervais, est de sauver le plus d'enfants possible, enfants venus de toute la France. Alors, il y a des enfants parisiens à plusieurs reprises, mais aussi des enfants de Nice, à partir du moment où Nice est occupée par les Allemands. Et que les rafles s'intensifient et que la chasse aux Juifs est lancée.
Vous êtes juif ?
Au fil de l'automne, la pression allemande sur les Juifs s'accentue. Et Tony Green, cadre du MJS, accélère la cadence.
Pas de bruit à l'intérieur. Allez, donc.
Alors, en octobre, les convois se sont intensifiés. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait un convoi tous les quelques jours, parfois toutes les semaines. En octobre, il n'y a jamais eu autant de convois. C'est-à-dire qu'il y a des passages, quasiment un convoi par jour. D'ailleurs, plus seulement d'enfants. Parfois des familles. Mila, à ce moment-là, donc au mois d'octobre, elle fait au moins deux allers-retours entre Annecy et Nice pour aller chercher des groupes d'individus qu'elle amène à Annecy pour les faire passer. Ce qui est très fatigant, il faut bien imaginer que, d'une part, c'est dangereux, mais c'est aussi compliqué, les réseaux de transport sont pas sûrs, c'est long. Donc on imagine que mener des convois plus des voyages dangereux, c'est quelque chose de très fatigant.
En octobre 1943, Mila Racine s'active pour faire passer un maximum d'enfants en Suisse. Alors qu'à Lyon, au pied des Alpes, Lucie Aubrac se lance dans une folle opération d'évasion de Raymond Aubrac.
Alors là encore, sur ce stratagème qu'elle met en place et qu'elle a décrit, on n'a pas de pièces d'archives et pour cause.
Laurent Douzou.
Mais ce qu'elle a expliqué, c'est qu'elle est enceinte. Ça, c'est irréfutable. Et qu'elle est allée, avenue Berthelot à Lyon, où était le siège de la CIPOSD, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la Gestapo, et qu'elle a fait valoir qu'elle était enceinte des œuvres de cet Hermelin qui avait été arrêté à Caluire, qui donc en réalité était Raymond Samuel, et qu'elle voulait obtenir un mariage, même s'il devait être condamné à mort, avec lui. Et donc, elle a entamé des tractations. Ça lui a permis d'aller sur place, ça lui a permis de repérer les lieux, ça lui a permis ensuite de faire des relevés minutieux des trajets entre la prison Montluc et l'école de santé militaire où étaient installés les Allemands, et de, avec l'aide d'un groupe franc, de repérages nombreux, de monter une évasion qui a eu lieu le 21 octobre 1943.
Je suis là, sans me décider à partir. Avec ces garçons, prêts pour ce soir. Ils savent qu'ils s'engagent dans une affaire difficile et périlleuse. Plusieurs ont femmes et enfants. Ils savent qu'ils vont sauver un homme qui était l'un des dirigeants de l'armée secrète. Je leur ai dit depuis longtemps qu'il était mon mari. Ils connaissent la force de mon amour, ma détermination, ma volonté de vaincre. Plus que tout, ils me savent gré d'avoir pris, malgré ma grossesse, les mêmes risques qu'eux ces derniers mois. Et d'être avec eux ce soir, en combattant comme les autres. Entre nous, la fraternité, l'estime sont totales. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de désertion. Tout simplement, je les quitte. À ce soir, les gars. Chacun à sa place, à partir de 5h30.
Elle l'a libéré les armes à la main, la mitraillette sur les genoux, alors qu'elle était enceinte de 6 mois et qu'elle a dirigé le groupe franc qui a mené cette opération qu'elle avait montée de A à Z.
C'est quand même une affaire incroyable, Laurent Douzou, hein, cette évasion.
Alors, si vous employez le bon terme, c'est une affaire incroyable. Et du coup, beaucoup de gens l'ont mise en doute en me disant « Mais comment est-ce qu'on peut croire à une fable pareille ?» Là encore, j'ai envie de dire, il faut voir la résistance dans son ensemble. Vous savez, quand André Postelvinet arrive à Londres et raconte qu'il s'est évadé d'un hôpital psychiatrique parce qu'il se faisait passer pour fou et qu'il est sorti tranquillement de l'hôpital Sainte-Anne, puis qu'il a demandé un ticket de métro à un gosse, puis qu'il est allé voir des amis et que finalement il arrive à Londres, personne ne le croit. C'est incroyable. Mmh. Et on fait des vérifications et on s'aperçoit que, ben oui, c'est plausible. Dans l'affaire de Lycée Aubrac, je dirais qu'avec toute autre personne, tout autre passé, tout autre caractère, ça serait peut-être impensable. Là, ça ne me paraît pas impensable, d'autant que je reviens sur le fait que ce couple-là est un couple hors norme. Il y a entre ces deux êtres des liens qu'on rencontre assez rarement. Et donc, qu'elle ait voulu à la fois, au nez, à la barbe des nazis, arracher des prisonniers et en même temps récupérer son mari, ça paraît pas improbable.
Lucie Aubrac libère son époux des griffes de Klaus Barbie le 21 octobre 1943. Et ce même 21 octobre, Mila Racine et Roland Epstein, son coéquipier, tombent dans un piège.
Ce jour-là, le 21 octobre, Mila revient justement de Nice et elle est fatiguée. Et Tony Green, il doit y avoir deux convois. Et Tony Green, voyant son état de fatigue, lui propose de faire lui-même avec Sacha le premier passage et Mila et Roland feront le deuxième. Le premier convoi se déroule comme il faut, les enfants réussissent à passer, mais dans la journée, Mila et Roland, donc on voit un groupe un petit peu différent de d'habitude, ce ne sont pas des enfants, ce sont un couple de personnes âgées, une femme avec un enfant, un bébé et une vieille dame. Et alors qu'ils attendent au lieu de passage, sur ordre du passeur...
Arrêtez-vous, mettez les mains en l'air, ne bougez plus.
Et en fait, ils tombent dans une embuscade allemande. Roland Epstein a raconté plus tard avoir entendu le cri des chiens, des lumières, des hurlements. Il y a eu des coups de feu. Ces coups de feu ont tué un bébé et une dame âgée. Roland se souvient avoir été mordu au mollet par un des chiens. Le groupe est arrêté... et emmené à Annemasse, à l'hôtel Pax, qu'on appelle parfois la prison, et en fait le lieu de la Gestapo à Annemasse, qui n'est pas une prison de longue durée. On passe, mais on ne reste pas.
Le matin, je suis vite parti à Saint-Julien.
Sacha Racine, 1997.
Je vais chez le passeur. Il me dit « Allez-vous-en, allez-vous-en !» On les a tous pris hier, les Allemands étaient là, on a tiré, on a tué le bébé dans les bras de sa mère, et votre sœur et les autres ont été emmenés en prison. Alors, vous pouvez imaginer dans quel état je suis revenu à Annecy. Des gens du MJS sont venus, on dit tout de suite vous disparaissez. Parce qu'on n'était jamais sûr de personne, vous savez, quand les gens étaient interrogés par la Gestapo, personne ne peut savoir comment il réagira. S'il donnera des adresses, des noms, on ne peut pas savoir. Dès que quelqu'un a été pris, il fallait que les gens s'éparpillent et qu'on ne les retrouve pas.
En conclusion de ce sixième épisode, retenez qu'à la fin de l'année 1943, trois de nos cinq femmes sont très mal en point. Deux sont aux mains de la Gestapo et Lucie Aubrac est en cavale. Que vont-elles devenir ? Quant aux deux autres, elles sont accablées par cette guerre mondiale qui n'en finit pas. C'est alors qu'arrivent les fêtes de Noël 1943.
Le maréchal de France, chef de l'État, vous parle.
Mes chers amis, pour la quatrième fois, la France célèbre dans l'épreuve et la tristesse un Noël de guerre.
Un Noël avec son cortège de vœux.
Une fois de plus, je vous adjure de penser par-dessus tout au péril de mort que courrait notre pays si sur lui s'abattait la hideuse guerre civile.
Dans un pays au bord de la guerre civile, comment nos cinq femmes ont-elles vécu la nuit de Noël 1943 ? C'est l'horizon du prochain épisode. Les résistantes. un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Aurore Clément et Anna Mouglalis. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Léonie Ferré. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Prochain épisode, Il est minuit, chrétien. Les Résistantes est un podcast original de France Inter.